sujet de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15 heures, vous écoutez Mon Grain PM.
Le réseau public des CHSLD, c'est 40 100 lits. 75 % c'est public. Le privé conventionné, donc subventionné avec un contrat pour des critères, c'est 16 % des lits, de ces 40 000 lits-là. Et les non conventionnés, c'est 9 %. Ailleurs au Canada, c'est complètement l'inverse. C'est le privé qui en a le plus et on en a moins dans le public, dans le réseau de l'État, dans le reste du Canada. On va parler, si vous voulez bien, à vous, parce que je veux connaître votre opinion. On paye avec nos taxes, évidemment, ces services publics-là. Est-ce qu'ils sont adéquats? Ils ont d'excellents résultats comparés à d'autres. Et cependant, tout le monde est à peu près égal. Est-ce que vos taxes sont vraiment à l'œuvre à cette place-là? Ou si vous préférez payer et être au privé, ou si on nationalise tout ça pour arrêter d'être à deux vitesses? On va aller au téléphone. Déjà, dans un premier temps, on parle à... Bonjour. Ah, c'est notre invité qui est là tout de suite. Michel Nardella, qui est le président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec. Alors, bonjour, M. Nardella.
Bonjour, M. Mongrain.
M. Nardella, dites-moi, vous, là, vous représentez les privés.
Privés non conventionnés, effectivement.
Est-ce que ça veut dire non subventionnés, ça?
Non, on a 75 % de nos places. Qui sont achetés par le gouvernement, sont subventionnés, mais pas au même taux que les places, que les CHSLD conventionnés. Un différent financement quotidien.
Qu'est-ce que c'est de ne pas être conventionné comparativement à conventionné? Vous n'avez pas de règles du ministère de la Santé à suivre, quoi?
Oui, on a les mêmes règles d'agrément, qui les processus et les normes que tous doivent avoir de façon similaire ou identique. Là. Et puis, on a aussi les visites ministérielles. On est assujettis aux mêmes normes.
Bon, bien, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Et où la différence?
Au niveau des exigences, ce qui est attendu de nous, il n'y en a pas. Par contre, au niveau du financement, avec les années, dans le dernier 30 ans, 35 ans, il y a des places qui ont été achetées rapidement, sous forme de gré à gré ou à contrat, quand les régions savaient à l'avance qu'il était pour avoir des besoins sur des plus longs termes. Donc, on achetait des places et puis on négociait avec les CHSLD privés des montants. Et initialement, ces montants-là, on pouvait avoir 26 différents types de financement pour la même demande.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Oui, effectivement. C'est pour ça que j'étais sorti publiquement en 2010 pour parler de tout ça, là, que c'était inacceptable, puis c'était pour causer à court et moyen terme des problèmes, et on le voit aujourd'hui.
Dites-moi, M. Nardella, vous favorisez de devenir conventionné au même titre que les conventionnés. Là. Vous voulez enlever la couche que vous représentez?
Je vous dirais que oui. Majoritairement, nos membres aimeraient être conventionnés. Il y a quelques membres qui sont peut-être un peu réticents pour différentes raisons. On ne veut pas perdre aussi la créativité de l'entrepreneur et des personnes au privé, M. Voyer.
Ou le cash et le profit.
Non, c'est sensiblement, écoutez, le privé conventionné, ce qui est plaisant avec le privé conventionné, c'est qu'on a les mêmes salaires qu'au public. Donc, on fait partie de la convention nationale. Alors, c'est sûr que ça vient simplifier l'embauche et la rétention de personnel.
Alors, c'est dans votre association à vous que le monde est moins payé?
Effectivement. Oui. Okay. On y va selon ce qu'on nous donne, finalement, qui est à peu près au moment où on se parle.
Et selon la marge de profit et selon la marge bénéficiaire que vous souhaitez comme entrepreneur privé?
Effectivement. Sauf que on pourrait aussi dire, dans le conventionné, on fait un moins gros pourcentage, effectivement, mais sur un plus long terme et sur un plus gros montant. Donc, un pourcentage, le plus gros montant devient sensiblement pareil si on prend un pourcentage d'un plus petit montant qui est plus élevé.
Je comprends.
Par contre, on a des garanties pour les banques et on peut négocier des taux d'intérêt favorables. Et aussi, on peut aller chercher sous une meilleure gestion avec la rétention de personnel, moins de formation, moins de recrutement, parce que les gens y restent. Alors, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on va aller rechercher des sommes intéressantes en étant un bon gestionnaire.
Je veux revenir à ces contrats de service que l'État vous achète. Évidemment, c'est un problème d'offre et de demande au sens suivant, c'est qu'il y a urgence dans une région, les CHSLD ne fournissent plus, il y a un vieillissement de la population. Dans l'urgence, on dit « Hey, on va t'acheter des lits, on va t'acheter des lits, on va t'acheter des lits. » Ils se tournent vers vous.
Oui.
Bon, OK, on va t'acheter des lits, on va s'acheter des lits. Moi, je sais qu'à la dernière minute, si je veux faire quelque chose, ça coûte plus cher.
Moi, c'est pas tout à fait comme ça.
Votre tarif ne va pas dans l'urgence, non?
Non, pas du tout, pas du tout.
C'est quoi le tarif?
Le tarif quotidien, écoutez, présentement, c'est aux alentours entre 235 et 245, avec qui inclut la contribution de l'adulte hébergé.
OK. Puis ça, par jour. Ça, vous avez ça de la part de l'État. Et par-dessus ça, vous avez le droit de dire, si tu veux un bain, ça coûte tant, si tu veux des pelules, ça coûte tant, etc. C'est à la carte, le reste. Là. Je ne critique pas ça, je cherche à comprendre.
Non, pas en CHSLD. Ça, c'est, non, pas en résidence pour aînés, selon le montant ou les contrats qu'ils ont. Oui, mais en CHSLD, c'est un tout inclus. On n'a pas le droit de facturer aucun autre montant.
OK. Donc, il ne faut pas confondre la résidence pour personnes âgées, autonome et semi-autonome, du CHSLD privé non conventionné.
Effectivement. C'est un tout inclus en tout temps.
OK. Quel est votre intérêt à vous, dans votre association, de dire, nous autres, là, on aimerait mieux être conventionné? Vous auriez été... Où est l'avantage pour vous?
L'avantage pour la majorité des membres est la stabilité à long terme. Et puis aussi, on va enlever l'inquiétude au niveau du personnel, de la formation et puis du recrutement. On a des budgets définis qui sont établis par l'État au travers de l'association.
Et l'échelle salariale et tout ça, c'est établi.
L'échelle salariale, les conventions collectives. On fait partie, des fonds de pension, des assurances collectives, excusez.
Exact, oui.
On a toutes les mêmes avantages. Alors, c'est certain.
Quand on est conventionné.
Présentement, on est un peu une pépinière pour les conventionnés et les privés, et souvent, les gens viennent chercher leur expérience.
Et d'autant plus, si vous me permettez, que vous avez un concurrent maintenant, qui est l'État, en offrant un salaire supérieur à ce que vous payez dans vos institutions à vous.
Effectivement.
Alors, donc, vous êtes concurrencé par l'État pour faire face à une crise, et je suis assez convaincu que cette situation-là va demeurer après. On ne peut pas rebaisser les salaires du monde qu'on demande de venir aider.
Effectivement. De quelle façon qu'ils vont regarder à maintenir ces salaires-là? Pour le moment, on a ces salaires. Les salaires sont convenus jusqu'au mois d'août, pour l'instant, fin août, début septembre. Et puis par la suite, il y a des propositions qui devraient nous être offertes pour harmoniser le financement.
Okay.
Sous quelle forme on attend la réponse de ce côté. J'avais eu une conversation avec M. Dubé et Mme Blais il y a 3 semaines.
Puis qu'est-ce qu'il disait de ça?
Qui était pour avoir une proposition pour nous au mois d'août.
Bon, OK. Là, soyez bien franc avec moi parce qu'on est dans business. Là, je ne parle plus des clientèles puis du service que vous offrez puis de la passion puis de la vocation. Là. Ça serait plus payant pour vous d'être conventionné?
Je ne vois pas une grosse différence entre le rendement parce que, étant donné qu'on doit rencontrer nos ratios financiers, nos plus grosses dépenses, c'est les salaires. Et pour être capable de rencontrer ces ratios financiers-là, où on va aller couper, c'est avec les salaires. En augmentant les salaires, l'augmentation du financement en étant conventionné va tout simplement aller dans les salaires et pas dans la poche des propriétaires.
Merci beaucoup, M. Nardella, de ces éclairages sur la situation du type de résidence que vous avez. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Merci, au revoir. On va aller au téléphone. Est-ce qu'on y va tout de suite au téléphone? Lucie est avec nous. Bonjour, Lucie.
Oui, bonjour, M. Mongrain.
Bonjour, madame.
Je suis une médecin retraitée depuis quelques années.
Oui.
Et durant ma carrière, j'ai été en contact souvent avec les médecins qui travaillaient dans les CHSLD, ainsi qu'avec les infirmières et les soignantes. Je pense que la discussion entre conventionnés et non conventionnés, privés ou publics, est une fausse discussion.
Ah, expliquez-moi. Expliquez-moi, votre expertise va nous être utile.
Oui. Le problème, c'est la qualité des soins qu'on donne aux patients. Et ça ne dépend vraiment pas de l'aspect administratif. À mon avis, ce qui est important, et ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est qu'il n'y a pas de direction ferme dans chaque institution qu'il n'y a que le personnel qui y travaille est souvent non formé ou formé sur le tas ou a peu de scolarité et que les contrôles de l'État ne se font pas. Il n'y a pas vraiment de contrôle soutenu. De temps en temps, un inspecteur se montre une fois par an, une fois tous les deux ans. Il passe généralement annoncé et les choses s'arrangent le temps que le contrôle passe et par la suite, les choses se relâchent. Donc, je ne pense pas que la titularité ou l'administration ou l'État ou non-État est vraiment la réponse. La réponse se trouve au niveau des institutions elles-mêmes. C'est là que le changement doit se faire. C'est là qu'on doit installer des directions fermes. C'est là qu'on doit installer des personnels qui est motivé, qui veut travailler, qui est bien formé. Et je ne vois pas la solution autrement, monsieur Mongrain.
Lucie, si vous me permettez, je vous appelle Lucie, mais je vous appellerai docteur. C'est assez particulier de voir un bateau sans commandant. Vous me dites que ce sont les matelots qui organisent le travail, l'orientation de l'institution où ils travaillent, exactement, mais il n'y a pas de commandant à bord du navire.
Exactement. Et les matelots peuvent être de bonne volonté ou bonne volonté. Ils peuvent être formés.
Ça dépend s'ils sont formés et compétents.
Pas formés.
Voilà.
Compétents ou pas compétents. Et tout ça, ça dépend comment les choses s'organisent.
C'est assez particulier de voir, entre vous et moi, là, comme vous qui avez travaillé comme médecin dans ces endroits-là, je présume, de voir qu'une organisation comme celle-là n'est pas à sa tête un dirigeant, un directeur, un patron, un commandant du vaisseau. C'est impensable en quelque autre matière. Comment c'est présenté dans un réseau de santé pour personnes âgées? C'est incroyable.
Mais absolument, M. Mongrain. Pas seulement ça. J'ai souvent eu l'occasion d'aller dans les institutions, dans les CHSLD, et de vouloir parler, non pas un directeur ou une directrice, ça n'existe pas, ils ne sont pas là, on ne sait pas où ils sont. Je vais parler avec l'infirmière pour un cas relativement important, et il faut que je prenne le rendez-vous avec madame qui s'en va dans une semaine ou dans 10 jours. Donc le rendez-vous avec l'infirmière pour un cas qui me paraît important va être reculé dans 10 jours. Je peux bien laisser les messages, je peux bien faire des demandes, et il n'y aura pas de réponse.
Pas d'organisation et débordement pour le personnel ou encore un peu de manque d'intérêt.
En plus, non, je ne vais pas aborder cet aspect des choses parce qu'on veut dire, on va peut-être penser que je suis mal, que j'ai une mauvaise opinion, mais il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas être là.
Merci beaucoup, Lucie, de votre témoignage. Ça porte à réflexion et j'espère que vous êtes entendue ailleurs que ici, entre nous, comme ça, de façon privée, secrète, cachée. Hey, Québec! Youhou! Coucou! On passe à quelqu'un d'autre? Bonjour, Nathalie.
Oui, bonjour, M. Mongrain.
Bonjour, madame.
Ça me fait plaisir de vous parler.
Écoutez,
moi-même, travaillant dans le domaine de la santé comme préposé bénéficiaire dans une institution assez bien, merci pour le Québec, je vous dirais, je ne sais pas si je peux la nommer, là, parce que quand il y en a, il faut la nommer, des anciens combattants à Saint-Anne-de-Bellevue.
Oui, c'est ça, l'ancien hôpital des vétérans qui est rendu maintenant à Saint-Anne-de-Bellevue, mais qui, il y a plusieurs années, l'hôpital des vétérans était sur Reine-Marie, où est présentement l'Institut de gériatrie de Montréal.
Non, c'est celle sur les anciens combattants, des anciens combattants.
Les vétérans,
Oui, c'est ça, qui était fédéral, qui est devenu provincial depuis quelques années, malheureusement, parce que je dis malheureusement, parce que ça aurait dû rester fédéral. C'était un exemple d'hôpital à suivre, je peux vous dire, M. Mongrain. On essaie de maintenir le standard, qui est très difficile. Le but de mon appel, c'est que moi, j'avais deux parents inaptes que j'ai dû éventuellement placer dans une résidence privée, qui était mon père à l'époque, commençant le début d'Alzheimer, et ma mère avait fait depuis 5 ans déjà quand j'ai décidé de déplacer un ACV sévère, qu'il avait perdu l'usage de la parole, tout ça, mais quand même cognitivement, elle était comme un enfant de près de, je dirais, 8 ans. Mon père pouvait quand même s'en occuper, fait qu'on a pu aller dans une résidence privée qui était très bien à Marieville, puis que...
Mais parlez-vous d'une résidence pour personnes âgées si vous me parlez d'un CHSLD?
Non, une résidence privée. Mais à ce moment-là, c'était non, je vous dirais, vous allez voir le but de pourquoi je m'en vais par là.
Allez-y, le temps file.
Pardon?
Allez-y, le temps file.
Oui, j'y vais. Fait que les deux étaient là. J'ai réussi avec les soins de CIS, de l'aide CLSC et la résidence elle-même de les garder là. Éventuellement, mon père a décédé, ma mère est restée seule, ça coûtait des frais supplémentaires pour la garder là. Et dernièrement, elle a fait une chute, il a fallu la transférer dans une autre résidence.
Okay.
Depuis mon appel, je vous dirais qu'il y a trois vitesses de fonds du permis. Il n'y en a pas deux d'après moi, parce que j'ai tellement eu
allez-y.
Tout ça. C'est que quand j'ai trouvé cette résidence-là, c'est après avoir fait des recherches avec la travailleuse sociale d'un dossier pour ses besoins.
Je comprends.
On a décidé à ce moment-là de l'envoyer là parce que soit je l'envoyais sur une liste prioritaire en attendant d'avoir une place. Je ne savais pas où j'allais l'envoyer. Il fallait que je choisisse cette place-là. Ça aurait pu être n'importe où, sans savoir quand.
Oui.
Et vu que je ne pouvais pas la laisser à cette résidence-là, vu que c'était trop de soins demandants,
oui,
j'ai décidé de l'envoyer au privé conventionné.
Okay.
Conventionné, ça me coûtait 6 000 $ par mois en attendant d'avoir une place pour qu'elle soit là au privé conventionné. Fait que c'est ça la différence, c'est qu'on n'a pas le choix. En attendant, si j'avais pas eu le choix, j'aurais fallu que je la laisse là, ça m'aurait coûté. J'aurais pas eu le choix de.
Non, vous ruinez, là. Honnêtement, là, 6 000 piastres par mois, je veux bien, là, mais c'est de l'argent, là. On s'entend, là. 6 fois 12, 72, ça fait un taux d'impôt, mettons de 50 %, ça fait 150 à 160 000 piastres par année. On commence à jaser, là. On l'aime beaucoup, papa, on l'aime beaucoup, maman, mais toute la famille va se ruiner, là. C'est ça, la situation. Et c'est à ça qu'on est confronté pour des gens qui ont bûché toute leur vie pour gagner leur vie. Et voilà qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Merci beaucoup de ce témoignage. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a un aspect comptable là-dedans. On ne veut pas jamais monnayer ça, mais la réalité, c'est celle-là. Il vient un temps que tu es pris à la gorge puis tu ne peux plus rien faire. Est-ce qu'on s'arrête pour une pause? Et on s'en va tout de suite à une pause, puis on revient tout de suite avec un autre invité, là, puis d'autres sujets, puis on n'arrête pas. Bye.